il n'y aura plus de pétrole. On se promènera en carriole parmi les fleurs et feuillages. Les motards sont en chômage.
420 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Plus 1,45 degrés Celsius par rapport à l'air pré-industriel, une calotte glaciaire en fusion, la biodiversité en extinction. Triste constat dressé par des scientifiques du monde entier sur le déclin de notre société. Nous sommes un groupe de doctorants, jeunes, entrant dans cette société qui nous effraie. Qui nous effraie par sa croissance effrénée, son déni de la gravité, son manque de remise en question devant l'évidence que notre système doit changer. Mais nous représentons aussi une jeunesse avec de l'espoir, une jeunesse en train de prendre de l'élan pour surmonter les défis face auxquels notre génération est confrontée. Et un de nos tremplins pour y parvenir est l'université. Je pense que l'université est un lieu florissant, avec des compétences, des volontés, et avec un devoir d'enseignement et d'exemplarité. Ce devoir prend tout son sens dans ma discipline. Nous, géoscientistes, qui mesurons les variables environnementales qui s'emballent, qui définissons l'anthropocène, qui ne cessons de tirer la sonnette d'alarme, c'est cette volonté qui nous anime au quotidien dans la recherche. Et en tant que chercheurs, nous devons être cohérents. L'origine anthropique du dérèglement climatique a été démontrée, si bien que l'implication de la combustion d'énergie fossile. Nous devons cesser les nouveaux projets d'extraction pétrolière et gazière, comme le préconisent les travaux du GIEC. Les entreprises d'énergie fossile ne devraient pas développer de nouveaux projets, et pourtant, les prévisions futures sont largement à la hausse. Mais l'heure n'est plus à la démonstration scientifique. Les solutions sont déjà connues, le frein est politique. Et ce frein que nous voulons lever aujourd'hui, et c'est ce frein que nous voulons lever aujourd'hui. À l'heure où nous dépassons les 1,5 degrés Celsius limite fixée lors de la COP21 à Paris en 2015, à l'heure où les COP sont organisées par et pour les entreprises fossiles, à l'heure où la Légion d'honneur est donnée à un patron de major pétrolière, il nous faut des leviers forts et symboliques pour réaliser une réelle bifurcation écologique. Et pour relever ce défi, nous prenons la pluridisciplinarité, avec des journalistes, un avocat, des scientifiques, un public de toute discipline. Nous souhaitons remettre en question notre façon d'habiter et porter une expertise univoque sur les questions environnementales. Afin de pouvoir honorer au mieux ce devoir, nous remettons en question l'influence des entreprises fossiles sur la recherche, sur les étudiants et plus globalement sur la politique. Nous pensons que les partenariats avec certaines entreprises pourraient mettre en danger l'objectivité et la liberté académique. Il est nécessaire d'engager un débat sur l'éthique de ces partenariats. Certes, mon discours peut être alarmiste et éco-anxiogène, mais afin de surmonter cette anxiété avec laquelle nous grandissons depuis plus de 10 ans, nous avons monté ce projet, tous ensemble, un projet qui apporte des solutions, un projet pour prendre en main les politiques locales, dont celles de l'université, et avoir des répercussions globales. Et vous voir si nombreuses et nombreux aujourd'hui me réconforte en l'idée que la cause environnementale anime encore le cœur des gens et que tout n'est peut-être pas perdu. Au nom de tout le comité d'organisation, je vous souhaite une bouleversante journée.
Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole parmi les fleurs et
bonjour
feuillages.
À tous. Et merci beaucoup pour l'invitation pour parler de cet article. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement. Donc moi, je suis journaliste au service Campus. Campus, c'est un service qui parle des grandes écoles, des universités et de la vie de l'enseignement supérieur. Et depuis quelques années, je travaille beaucoup sur les mouvements de révolte étudiants, Donc ça a commencé plutôt pour moi en 2018, au moment du manifeste pour un réveil écologique, où j'ai commencé à suivre quelques étudiants qui avaient signé un texte appelant à déserter les entreprises climaticides. Et depuis cette date, j'essaye de regarder un peu ce qui se passe sur les campus. Et cette année, avec Manon et Margarita, on s'est aussi intéressé au labo de recherche. Et je te laisse te présenter, Manon, si tu veux.
Bonjour, moi c'est Manon Romain, je suis data journaliste dans le service des décodeurs, donc c'est un service différent du Monde. Donc moi j'ai pas fait une école de journalisme, je suis arrivée du journalisme par une école d'ingénieur, donc je connais aussi l'enseignement supérieur par ma formation. Et j'étais à l'école polytechnique, et où Total d'ailleurs a essayé d'avoir beaucoup d'influence, échoué. Pendant que j'y étais, donc c'est un sujet qui me touche. Et donc on racontera la genèse de l'histoire plus tard, mais j'ai beaucoup travaillé à l'obtention de documents, et c'est pour ça que Marine et Margarita sont venues me voir pour me demander de l'aide sur ce sujet. On vous le dira, pour récolter le plus de données possible, et c'est là que j'ai pu les aider. Je te laisse.
Donc voilà, juste pour peut-être vous faire un point sur ce qui nous a mené à écrire cet article. Donc moi, en janvier 2023, je commence à m'intéresser aux manifestations des étudiants sur leur campus contre Total Energy. Donc je vois qu'à HEC, je vois qu'à Sciences Po, je vois qu'au Mines, il se passe des choses. Et j'apprends qu'à Sciences Po Nancy, enfin sur le campus délocalisé de Sciences Po à Nancy, des étudiants organisent toute une semaine d'informations sur Total Energy, sur sa présence dans l'enseignement supérieur et sur le projet ICOP, qui commence beaucoup à intéresser les étudiants. Donc voilà, je décide de venir à Nancy pour faire un reportage. Je rencontre ces étudiants et puis je vais faire un petit tour dans une école d'ingénieurs pas très loin de Sciences Po, qui est l'École nationale de géologie de Nancy. Et j'interviewe des étudiants, des professeurs, la directrice de l'école, qui est une géologue. Et au cours de la discussion avec cette directrice d'école d'ingénieurs, elle m'apprend que les étudiants de son cursus ont des cours avec des salariés de Total. Donc là, je tombe un peu des nues. Je dis, comment ça, des salariés de Total? Ben oui, on fait appel au catalogue de TPA, Total Professeur Associé, un sigle voilà, que j'avais jamais entendu auparavant. Et elle m'explique comment ça fonctionne en toute normalité, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ils ont un catalogue et les écoles d'ingénieurs peuvent piocher dans ce catalogue pour des cours qui les intéressent. Donc elle, il se trouvait qu'elle avait un sujet sur la question, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste des sujets scientifiques de géologie, mais sur la question du réservoir, qui après est une question assez intéressante, j'ai un peu creusé par la suite, mais voilà, sur la question du réservoir, apparemment il n'y avait pas assez d'enseignants-chercheurs, hein, spécialistes de ces questions-là, donc ils ont fait appel à des salariés et des retraités de Total pour donner des cours aux futurs élèves, aux futurs ingénieurs. Mais quand même, je me dis, TPA, c'est quand même la première fois que j'entends ça, c'est quand même étrange. Et juste après, je commence à regarder un peu comment ça fonctionne. Et donc là, je vois un catalogue virtuel avec Manon. Après, on a regardé les intitulés de cours. C'est extrêmement vaste, hein. C'est pas que des sujets d'ingénierie. En discutant après avec des profs de TPA, en fait, ils sont capables de donner des cours sur à peu près tout, même en sciences humaines et sociales. Donc, ils donnent aussi des cours de management, ils donnent des cours de ce qu'ils appellent les soft skills. Ils font de l'interculturel. Enfin, ils font plein de choses. Ils ne font pas que des sciences dites dures. J'avais ça en tête. J'écris mon papier. Et puis, en janvier de cette année, donc en 2024, je rencontre une source que j'avais rencontrée lors des mobilisations justement contre l'implantation de Total sur le campus de Polytechnique. Donc cette source m'explique qu'elle aimerait bien cartographier les liens de Total avec toutes les grandes écoles et toutes les universités en France. Alors, évidemment, je trouve ça très intéressant, on discute, etc. Après, c'est un travail d'enquête de grande envergure pour lui, qui, par ailleurs, en plus, était en poste ailleurs, et pour nous, qui difficilement faisable comme ça, tout seul, quoi. Donc, je garde ça dans un petit coin de ma tête, et puis, au cours de l'année, voilà, on commence à s'intéresser aux 100 ans de Total, parce qu'en fait, Total, avant, c'était la compagnie du pétrole, donc c'est né en 1924. Donc, pour le journal, on avait prévu, voilà, de préparer une grande série sur les 100 ans, cet anniversaire, de Total, et le premier papier, je crois, s'appelait 100 ans et un feu de critique, quoi. Voilà. Donc, on avait tenté de raconter toute l'histoire de cette entreprise ces 100 dernières années en explorant différents aspects. Et donc, à ce moment-là, je vais voir Manon, Margarita, et je leur propose d'enquêter sur les liens de Total dans l'enseignement supérieur. Il me semblait que il y avait là une influence qui n'était pas vraiment racontée, qui existait, puisque à chaque fois qu'on posait la question, enfin en tout cas nous, pendant nos reportages, à chaque fois qu'on posait la question, on s'apercevait que Total était d'une façon ou d'une autre un peu présente dans les grandes écoles, en particulier dans les grandes écoles, mais aussi dans les universités, on pourra en reparler un peu après. Et que c'était une stratégie d'influence en tant que telle. Donc on avait cette hypothèse de départ, sachant qu'on a des confrères anglo-saxons qui, la même année, avaient fait un remarquable travail d'enquête, alors principalement en Europe, mais principalement au Royaume-Uni, sur le financement des universités par les grandes entreprises de l'industrie fossile. Donc on avait déjà... Enfin, cette hypothèse avait déjà été un peu validée par des confrères. Et nous, en France, comme Total est prédominante, en fait, sur le marché des entreprises fossiles, on savait que voilà, ce serait sur Total qu'il fallait se concentrer. Donc à ce moment-là, on se lance dans cette enquête et on construit ensemble un épisode de l'enquête. Et on va voir Manon, qui a donc des compétences que nous n'avons pas, pour aller recueillir des informations. Je te laisse la parole, peut-être que tu veux raconter.
Ils sont venus me voir avec ce projet qui était cartographier tous les liens de Total avec l'enseignement supérieur et la recherche. Donc c'était massif et ambitieux. Donc moi ça m'a fait penser à un autre projet auquel j'ai participé qui était de cartographier l'influence des cabinets de conseil dans les ministères. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais... ce qu'on a fait, notre méthode de travail, ça a été d'envoyer des mails à tous les ministères et aussi toutes les autorités, tous les acteurs publics majeurs pour leur demander tous les contrats qui les liaient à des cabinets de conseil. En fait, c'est assez méconnu, mais tous les citoyens ont le droit de faire ça. Les journalistes sont des citoyens comme les autres et donc ont aussi le droit de le faire. On a le droit de demander à des administrations publiques des documents, donc c'est pas des informations, mais des documents qui existent et qui sont pas couverts par un secret quelconque, donc secret défense ou des secrets médicaux autres. On peut leur demander de nous envoyer des documents. Généralement, ils le font pas. Et dans ces cas-là, il y a des voies de recours que sont la commission d'accès aux documents administratifs. Vous pouvez leur faire un mail, c'est des juristes, et ils vous disent oui, vous avez bien le droit de demander. Ensuite, vous revenez vers l'administration, vous leur dites « vous voyez, j'ai le droit », ils ne vous répondent pas. Et là, vous allez au tribunal administratif, et tout ça prend 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous avez peut-être le document là, sur les cabinets de conseil, on attend encore plein de choses qui ne nous ont pas été envoyées. Et donc, c'est une méthode de travail avec laquelle j'étais familière. Pour les ministères, on les avait tous appelés un à un. Et là, je me disais, on peut faire pareil pour toutes les universités. Donc, on a fait une liste à nous trois de toutes les universités, toutes les grandes écoles qu'on voulait prendre dans le champ de l'enquête. On a récolté tous leurs mails. Et là, j'ai écrit un script Python pour envoyer un mail type « Bonjour, nous voudrons tous vos contrats avec Total Energy ». Et donc, je ne sais plus combien on a envoyé de mails, des centaines. Et en fait, il y avait aussi nos numéros de téléphone au cas où les gens aient des questions. chose qu'on n'aurait
pas dû faire.
Je sais pas. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, enfin, moi, ce que j'avais pas prévu personnellement, c'est que les ministères, ils sont habitués à ce genre de demandes, sont habitués à une relation un peu conflictuelle avec les journalistes, je dois dire. Et les universités, elles le sont pas. Elles ont été choquées, je pense que c'est le mot, de recevoir ce mail, qu'on soit dans un ton un peu accusateur. Selon elle, et donc on a reçu énormément de coups de fil paniqués pour nous demander de préciser notre demande. Mais finalement, à force de les convaincre de l'intérêt de notre démarche et de l'intérêt public de ce qu'on voulait faire, il y a quand même beaucoup d'universités qui ont fini par répondre, et on a pu avoir une cartographie qui n'est pas exhaustive des liens total qui sont variés et nombreux. Avec des universités, des grandes écoles. Voilà. Et donc, on avait une base de données qui a été la base de travail pour Marine et Margarita, pour qu'elles puissent interroger plus la démarche derrière ces partenariats d'universités.
Ouais, et dans cette base de données, en fait, quand les établissements ont répondu, alors c'était loin d'être des réponses qui se ressemblaient. Enfin, c'était vraiment 50 nuances de réponses, quoi. On avait oui, nous avons des liens, point, sans dire lesquels ni de quoi il s'agissait. Des établissements qui, comme on dit, faisaient le mort, tout simplement, ne répondaient pas. Des établissements qui nous disaient « Attendez, on va vous dire », etc. et qui finalement attendaient la dernière minute parce qu'on avait fixé une deadline, en fait, avec le mail, et qui finalement laissaient passer cette deadline et disaient « Ah, désolé, oups, on vous a pas répondu ». Des établissements plutôt qui jouaient le jeu de façon assez transparente, qui nous ont même donné des contrats, enfin voilà, qui nous ont donné à voir, en fait, les liens qu'ils avaient. Et voilà, et quand même, enfin, après ce mail, il y avait quand même une sorte de peur, en fait, d'exposer, en fait, les liens qu'il pouvait y avoir entre eux, donc ça, les universités, les grandes écoles et Total Energy. Donc nous, ce qu'on a fait, une fois qu'on a obtenu un minimum de réponses, sachant que par ailleurs, on avait déjà commencé, Margarita et moi, à faire ce qu'on appelle chez nous une enquête un peu qualitative, c'est-à-dire à entendre un certain nombre de témoins, de sources, à recueillir des documents. Donc on avait déjà fait ce travail un peu en amont pour se préparer à interviewer directement les établissements. Une fois qu'on a eu les informations collectées par Manon, on a appelé donc toutes les universités, les grandes écoles, dont les liens nous semblaient significatifs. Alors, significatif pour nous, c'est ça se chiffre en millions d'euros. Voilà, on voulait vraiment d'abord s'intéresser à ceux qui avaient des partenariats qui se chiffraient à 3, 4, 5, ça a été jusqu'à 40 millions d'euros. Voilà, donc il y a une école qui s'appelle l'IFPEN, par exemple, on pourra en reparler, c'est l'Institut français du pétrole. Alors aujourd'hui, il y a écrit Énergie Nouvelle derrière, EN, qui est une école d'ingénieurs de formation, qui a donc un contrat. On a encore la base de données avec Manon, regardé ce matin dans le train, un contrat de 40 millions d'euros de financement de Total Energy. Donc on a pris tous ces partenariats qui nous semblaient significatifs et on a contacté les établissements. Donc ceux qui avaient des gros partenariats ne nous ont pas répondu. Voilà. La stratégie, ça a été de ne pas répondre, de ne pas donner suite à nos demandes.
D'ailleurs, l'Institut français du pétrole, normalement, pour la CADA, si vous vous intéressez à ça, normalement, les administrations sont censées vous répondre d'une façon type. Sinon, ils n'activent pas. Il y a toute une série de délais. Les universités, elles n'étaient pas du tout au courant, personne n'a respecté ça, sauf l'Institut français du pétrole, qui était visiblement bien au courant de
l'une des seules écoles à avoir un juriste spécialisé de ces questions. Voilà, ouais, ouais, voilà. Donc ça en dit long. Donc en fait, l'enquête, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi le contradictoire, c'est-à-dire quand on a obtenu des informations, on fait toujours réagir les gens qui ont quelque chose à dire sur ces informations et qui peuvent donner leur vision à eux, en fait, n'a pas pu aboutir, parce que la plupart n'ont pas donné suite à nos demandes. Ce qui a fait qu'on a continué à faire notre enquête qualitative, c'est-à-dire faire un vrai travail journalistique d'investigation, de rencontrer des sources qui nous emmènent voir d'autres sources, qui nous donnent accès à d'autres documents. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu, entre guillemets, tisser, en fait, essayer de représenter cette influence, en fait, dans les universités et les grandes écoles. Donc, on a pu parler à des enseignants, à des étudiants, et parfois à des gens dans des administrations qui étaient d'accord pour nous parler, mais en off total. C'est-à-dire qu'elles nous donnent les infos, elles confirment des choses qu'on avait déjà, mais elles ne veulent pas être citées. Donc elles sont anonymes. Et donc ça nous a quand même pris un certain temps. C'est quand même une grosse enquête. Moi, je me souviens, avec Manon, on a commencé en avril. Alors l'assemblée générale de Total avait lieu en mai. Et l'objectif, c'était vraiment de fêter leur anniversaire cette semaine-là en publiant une enquête par jour. Pour raconter ça. Donc on avait cette deadline quand même de l'AG de Total, et en début avril, on était déjà en train de se rendre compte que ça allait être très compliqué, qu'on allait nous fermer pas mal de portes, que les réseaux commençaient un peu à s'activer, et que certains avaient déjà pris peur et ne voulaient plus répondre, etc. Donc il y a plusieurs universités, dont l'université de Strasbourg, qui a été extrêmement effrayée par la demande, et j'ai eu plusieurs fois la directrice pour essayer de la rassurer, mais qui était très très embêtée par la demande, et au final ils ont pas répondu. Je vérifie encore ce matin dans le train, ils ont pas répondu. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc pour continuer cette enquête très très qualitative, donc on rencontrait des profs, tous ceux qui étaient d'accord pour nous parler, souvent à visage couvert, pour nous expliquer en fait comment qu'est-ce que c'est l'influence, à quoi on reconnaît qu'une entreprise influence un cursus, un laboratoire de recherche, un enseignant. Comment on le mesure, en fait? Et cette question, elle est très importante, et c'est très difficile d'y répondre de façon simple, en fait. Et là, je relisais un peu mes notes ce matin. J'avais discuté avec un chercheur de l'université de Pau. Alors, c'est très intéressant. Je vais faire une petite digression sur l'université de Pau. L'université de Pau, c'est une université assez récente qui a été créée dans les années 50. Et Pau, faut savoir que c'est quand même la ville berceau de Total, enfin de l'ancêtre de Total, qui a exploité pendant plusieurs décennies un gisement de gaz, donc à côté de Lac, dans la région du Béarn. Et l'université est vraiment née dans ces années où il y avait une effervescence autour de l'énergie, autour de ce gisement, etc. Et donc il y a tout un écosystème dans la ville de Pau où Total est présente. Donc c'est pas que l'université. J'ai discuté donc avec d'autres gens, notamment dans la municipalité. Enfin voilà, il y aurait une très belle enquête à faire d'ailleurs. Pour un prochain coup sur Total, sur comment l'entreprise a tissé vraiment une emprise à tous les niveaux de cette ville, et donc aussi dans l'université. Et donc dans l'université, c'est une université pluridisciplinaire, donc il y a des sciences dures, mais il y a aussi des sciences humaines et sociales. Et les sciences dures, les laboratoires de sciences dures sont très largement financés par Total depuis très longtemps. Et sachant qu'on a essayé de contacter des chercheurs de ces labos et que, évidemment, on a eu porte fermée. En parlant avec des chercheurs des labos de sciences humaines, c'était différent. C'était « on est d'accord pour vous parler tant que vous ne nous citez pas ». Et c'est là qu'ils nous ont expliqué justement à quoi se mesure l'influence. Et le premier élément de réponse, c'est le tabou. On n'en parle pas. Et je me souviens d'une de ces formulations de ce chercheur, c'était « parler de Total, c'est comme une faute de goût ». Et alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est très concret. En fait, Total, il finance aussi les doctorants, les post-docs, les gens qui travaillent dans les labos, etc. Donc en fait, on ne va pas mordre la main qui nous nourrit.
Moi, je me demandais simplement comment vous financez votre travail. Parce que vous n'avez pas de fruits de votre travail directement pendant que vous êtes en train de faire l'investigation. Comment vous financez ça et vous assurez une sécurité pour travailler?
On n'est pas financé par Total, mais toutes les deux on est salariés, en CDI classique, donc si vous êtes abonné au Monde, vous financez cette enquête. Voilà. Donc on a la chance, dans un milieu où tout le monde ne l'a pas, d'avoir un emploi stable, où dans un média qui nous laisse du temps pour faire ce genre de choses, ce qui n'est pas partout le cas.
On sait aussi que les financements vers les universités, ils vont pas, parfois ils ne passent pas directement par l'université, mais par les fondations liées aux universités. Est-ce que vous avez aussi interrogé ces fondations ?
Oui, on les a aussi interrogées, et je n'ai pas le détail de lesquelles nous ont répondu, mais c'est... Ils sont, je pense, plus habitués à qu'on remette en question leur financement, donc ils peuvent être plus frileux à nous répondre. Mais moi, venant de l'École Polytechnique, qui est une fondation très puissante et opaque, j'étais sensible à ces questions aussi.
Je me demandais, si j'ai bien compris, vous avez mis en lumière une forme de présence idéologique de Total au niveau de l'enseignement. Est-ce que, comme vous avez observé aussi qu'il y avait du financement de projet, vous avez aussi eu des phénomènes de droit de regard de Total sur les papiers qui sont produits, par exemple, ouais, ou ce genre de choses?
J'ai pas pu aller au bout de mon anecdote sur l'université de Pau. Je continue un tout petit peu, j'en ai vraiment pour 5 minutes, parce que ça fait partie du sujet, en fait. Quand je vous posais la question, à quoi se mesure l'influence? Donc, je vous disais, un premier élément de réponse, c'est le tabou. Mais le deuxième élément, c'est comment on fixe, en fait, comment on définit le cadre d'une recherche. Et quand il y a une entreprise qui finance, en fait, via des chaires de recherche, via directement dans le laboratoire, c'est elle qui définit le cadre. Donc ces chercheurs, par exemple, en sciences sociales, m'expliquaient que, notamment en sociologie, en fait, Total avait financé le projet pour que les chercheurs travaillent sur les notions d'acceptabilité. Voilà. Donc c'est Total qui finance un projet sur cette notion-là parce que ça l'intéresse de savoir ce que la science, en tout cas sciences humaines et sociales, peut produire comme pensée sur ce sujet-là. Donc déjà, ça c'est quelque chose pour moi qui est assez intéressant, parce que qui fixe en fait les règles du jeu normalement ? C'est plutôt les laboratoires, les chercheurs eux-mêmes. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une entreprise qui dit, ben voilà, on a envie de travailler sur telle et telle question, tel et tel concept. On vous laisse la liberté de le faire, mais c'est ça le cadre. Voilà. Après, l'influence sur les papiers de recherche, etc., nous, on n'a pas pu le démontrer en tant que tel. Il aurait fallu, je pense, enquêter beaucoup plus longtemps pour avoir des preuves, en fait, de ça. C'est difficile d'avoir des preuves de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en faisant régner une sorte de... je fais une mini-digression aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est donc très riche, qui fait beaucoup de profits, etc., qui finance des institutions qui se sont appauvris considérablement ces 20 dernières années. Donc on est aussi dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, et pour la, je sais pas, 70% des universités aujourd'hui sont en crise financière, en déficit. Quand vous avez une entreprise qui vous finance des projets, en fait, ça vient pallier justement le manque de financement de l'État. Donc il y a aussi ce contexte-là qui, à mon avis, joue un énorme rôle dans l'équilibre en fait qu'il peut y avoir. Mais voilà, si on enquêtait encore aujourd'hui sur ce sujet-là, on aurait peut-être des documents qui montrent à quel point, alors peut-être pas sur la censure, mais sur l'autocensure, sur le fait que on va pas aller dans cette direction-là, quoi.
Quand il y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole. Les fleurs, les feuillages, les motards sont en chômage.